France Culture.
Pour vous, quel bruit fait la neige ?
Quelque chose comme ça.
Et pour vous ?
Elle fait pas de bruit. C'est pour ça que c'est hyper agréable quand il neige, parce que d'un coup, il y a du silence. Elle tranquillise, elle calme. Ça fait du bien.
La neige absorbe les sons. Donc elle transforme le paysage sonore auquel on est habitué. C'est sa grande qualité. C'est comme si le monde s'arrêtait. C'est comme si d'un seul coup, on mettait tout en sourdine. C'est d'une beauté, c'est vraiment un moment suspendu.
Le bruit de la neige, c'est assez délicat. Quand je pars marcher dans la forêt, dès qu'il y a une bonne couche de neige, on entend ce petit crouch, crouch, crouch de partout, de mes pas, mais aussi celui des animaux. Généralement, je me balade avec les chiens. Bah, c'est vrai que c'est hyper agréable.
Neige, écho d'une disparition. Quentin Tenot, Agnès Catou.
Quand on va aller passer une nuit en refuge et que le soir arrive et que tout s'arrête, on se rend compte qu'en fait, il y a vachement de bruit tout le temps. Et quand on est là-haut, en fait, il n'y a pas de bruit et c'est une bonne chose des fois. Je conseille à tout le monde, de temps en temps, aller se poser un peu en refuge ou faire un trou dans la neige et mettre sa tête dedans et se rendre compte qu'en fait, il n'y a pas de bruit. Et on a l'impression d'être dans une petite bulle de coton. Ouais, un beau bruit en tout cas.
Quatrième épisode, les après-ski.
On vient d'arriver en Savoie, on est à Bourg-Saint-Maurice, une petite ville de Tarentaise. Et il y a encore un petit peu de neige au sol, très peu, et on se trouve devant le campus alpin, qui est un bâtiment de 2 étages, rouge et blanc, qu'on va aller visiter, on va aller rencontrer les étudiants.
Bonsoir.
Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on se trouve ?
Ça s'appelle le quartier des Alpins. Et en fait, ces bâtiments, c'était des anciens bâtiments qui étaient utilisés par les chasseurs alpins et qui ont été réhabilités. Et donc, y a le campus alpin, il y a des promoteurs immobiliers, plein d'entreprises. C'est un peu l'histoire de ce bâtiment.
Et si vous deviez expliquer ce que c'est que le campus alpin, qu'est-ce que vous diriez ?
Bon, ça s'appelle un campus connecté. Donc le nôtre, il s'appelle le campus alpin. Et c'est un peu comme un endroit de coworking pour que les étudiants qui étudient des cours en ligne et un endroit, un lieu pour se réunir, pour se faire accompagner, pour se retrouver et pour travailler.
Moi, c'est Jade Laplace, j'ai 18 ans. J'habite ici, enfin à Tignes, depuis toujours. Donc je fais un BTS communication, première année. Et j'ai décidé de venir ici parce que donc, je fais mes études au CNED, en distanciel. Et comme je sais travailler seul, mais qu'il me faut quand même un peu de la supervision, je me suis dit que c'était pas mal de venir ici.
Et pourquoi vous avez décidé de faire des études à distance ?
Parce que je fais mon monitorat de ski. Donc je passe des tests pour essayer de devenir monitrice. Donc du coup, je fais un peu du campus, des études et un peu de ski en parallèle pendant la semaine.
Bah moi, du coup, c'est Daphné Hédin, j'ai 19 ans. Ici, je fais une licence de géographie. Et je suis ici parce que je prépare aussi le monitorat de ski. Après, je ne suis pas du tout originaire d'ici. Mais comme je savais que je voulais faire ça, je me suis lancée directement après le bac pour faire mes études ici avec le monitorat.
Et vous ?
Donc moi, je m'appelle Vadim, j'ai 22 ans. Je suis arrivé au campus parce que j'avais commencé des études à Lyon et que ça ne m'avait pas parlé. Et je suis revenu parce que j'avais ce projet de devenir moniteur. Et là, j'ai appris qu'il y avait un lieu pour faire des études à distance qui allait ouvrir. Et donc là, je me suis dit, c'est l'alignement des planètes. Et donc, ça fait ma 3e année que je suis dans ce lieu. Et j'ai fait un BTS communication pendant 2 ans. Et donc là, je fais un bachelor marketing. Et en parallèle, du coup, l'hiver, je peux skier. Ça me laisse pas mal de temps pour faire les deux.
Est-ce que vous avez un souvenir marquant lié à la neige ?
Ouais, moi, je me souviens, j'étais au club des sports quand j'étais petite. Enfin, c'était pas il y a très longtemps, j'ai que 18 ans, mais quand même, quand j'en avais 8-10 ans, je me souviens que commençait les cours de ski en octobre sur le glacier. Et que, on arrivait à pied et qu'on prenait le funiculaire, on arrivait sur la neige. Maintenant, il n'y a plus rien avant fin novembre. Enfin, c'est vraiment inskiable. À mon avis, ça va reculer encore. Et je pense qu'on va commencer à skier en décembre bientôt. Donc c'est un peu inquiétant. Tignes, c'était connu avant pour faire 11 mois sur 12. Maintenant, on fait plus 11 mois sur 12, c'est impossible. On skie plus l'été. Avant, on pouvait skier sur le glacier, il me semble qu'ils ouvrent plus. Donc voilà, c'est comme ça.
C'est fou parce que vous êtes jeune, ça veut dire qu'en 10 ans, vous avez senti une différence énorme.
Bah, c'est même pas qu'on la sent, c'est qu'on la voit. Et moi, c'est pas un souvenir, mais c'est un truc qui me fait tilter à chaque fois, c'est qu'on a une photo de la route avec un énorme engin qui déneige, un chasse-neige, et il y a des murs de neige de, j'en sais rien, 3 mètres à côté. Et en fait, c'était une photo que mon père avait parce qu'il travaillait au déneigement. Et à chaque fois, je dis, waouh, ouais, la neige qu'il y avait à ce moment-là, c'est incroyable. J'aimerais aller voir ça, quoi.
Bah, c'est plus comme avant, ça se détériore. Et du coup, c'est plus de la tristesse ou de la nostalgie à se dire, ça sera plus aussi chouette qu'avant, quoi.
C'est facile d'oublier, parce qu'ici, on a quand même de la neige, on est dans les stations les plus hautes. On va skier, on oublie presque qu'il pourrait manquer de neige. C'est que quand vraiment elle commence à manquer, que là, par exemple, fait 3 semaines qu'il n'a pas neigé, qu'il y a l'herbe qui commence à ressortir à certains endroits, que là, on commence à se dire, OK, il y a un truc qui ne va pas. Mais après, on oublie très, très vite, quoi.
C'est un peu inquiétant quand même dans un sens. Parce qu'on se dit que là, au fur et à mesure, ça va reculer. Donc, ça peut encore reculer. Et puis, ça peut être dangereux aussi. Parce que nous, à Tignes, on a la moitié de la station qui est menacée. Donc le lac, un énorme lac du glacier, qui peut ensevelir à tout moment le Val Claret, un bout de la station.
Solastalgie. Un mélange d'inquiétude et de tristesse de voir son environnement changer sous ses yeux. Moi aussi, je suis pris par cette émotion quand je retourne dans mes Alpes natales l'hiver et que je ne vois qu'un paysage marronâtre par la fenêtre. Mais égoïstement, je suis peut-être un peu moins anxieux que ces jeunes, parce que je n'ai pas choisi une carrière qui dépende de la neige. Alors parfois quand même, la montagne me manque et je m'interroge, est-ce que je pourrais y retourner faire ma vie? Mais pourquoi faire? Vu les prix de l'immobilier, le coût de la vie, peut-être qu'il n'est pas trop tard pour passer le monitorat de ski après tout, miser sur le tourisme de la dernière chance, m'enrichir tant qu'il est encore temps. Non, sans cynisme. Que faire des pays de neige quand la neige ne tombe plus? Pourquoi est-ce que cela semble si difficile de débloquer de nouveaux imaginaires? Dans ce dernier épisode, cherchons à entendre comment des processus de décision politique bruyants semblent souvent étouffer le murmure de nouvelles idées, surtout quand l'écho des imaginaires du siècle passé ne cesse de résonner.
Nous sommes à Albertville, il fait 0 degré, c'est un peu froid. Le ciel est bien bleu cependant, l'herbe sur laquelle on marche est complètement gelée et les montagnes environnantes sont toutes blanches. C'est assez joli et on nous a donné rendez-vous devant un grand mât couleur rouille. On va retrouver l'auteur et journaliste Guillaume Desmurs qui publie une enquête sur les Jeux Olympiques d'hiver. Et pour la petite anecdote, je suis né à Albertville en 1996, donc 4 ans après les Jeux Olympiques de 92. Donc je n'ai aucun souvenir, ni des Jeux Olympiques de 92 évidemment, ni même d'Albertville, que je découvre pour la première fois.
Guillaume.
Bonjour. Ouais, super ambiance ce matin. Hein. Regardez, dans 5 minutes, on a du soleil. Là, c'est tout gelé. Et hop, dans 5 minutes, on va être bien au chaud. Ça va être super. Et c'est ça, tout le jeu des versants, en fait. Vous voyez que là, il y a plein de maisons de ce côté-là. C'est côté sud. Donc, ils prennent le soleil en premier. Et là, il n'y a pas d'habitation. Donc, quasiment pas. Il n'y a pas de village. Enfin,
C'est l'adret du bac, le versant ensoleillé, le versant à l'ombre. Alors ici, on a le mât qui était au centre du stade où s'est déroulée la cérémonie d'ouverture. Donc c'est en février, et cette cérémonie pour les JO de 92, elle a marqué, un peu comme celle de Paris d'ailleurs, elle avait été organisée, chorégraphiée par Philippe Découfflet, et elle avait marqué par son inventivité, par son originalité, et c'est autour de ce mât que s'est déroulée toute la cérémonie. Et notamment, accroché au mât, il y avait un tableau avec des danseurs qui étaient sur des espèces de longs élastiques. Et c'était très beau, très esthétique. Il y avait une danse des skieurs, il y avait une jeune fille qui a chanté la Marseillaise sur un plateau qui montait. Il y avait vraiment des très belles choses qui se sont déroulées ici dans la cérémonie d'ouverture. Et alors quand on le revoit aujourd'hui, ça paraît tout petit, ça paraît assez modeste, mais à l'époque, cette cérémonie a vraiment marqué par son inventivité et par l'esthétique du spectacle. Le mât s'illumine, on est pile à la frontière entre l'ombre et la lumière. Là. Et là, au bout de cette vallée, vous avez Val Thorens, les Meunières, Saint-Martin, Méribel, Courchevel, les Trois-Vallées. Vous avez Paradisqui, La Plagne, les Arcs. Et après, vous avez Tignes, Val d'Isère, plus la Rosière. Et là, vous avez plus de la moitié du business du ski en France. C'est-à-dire qu'au bout de cette vallée, vous avez une activité économique qui pèse autant que toutes les autres stations de ski de France réunies. C'est juste pour donner un ordre de grandeur de la dimension de l'échelle industrielle de ces stations.
Et vous, Guillaume Desmures, vous venez de cette vallée, c'est ça ?
Alors moi, j'ai grandi dans l'une de ces vallées, la vallée des Belles-Villes, qui est en l'occurrence la plus grande. C'est une seule commune, la vallée des Belles-Villes, qui a deux grandes stations internationales. C'est une particularité. Val Thorens, Les Meunières, et puis plus récemment, Saint-Martin-de-Belleville. Et en fait, c'est à peu près 10% du ski en France.
Guillaume Desmures, dans votre livre « Le crépuscule des Jeux », vous racontez la journée du 17 octobre 1986. Vous avez 14 ans et le CIO va annoncer quelle ville sera hôte des Jeux Olympiques d'hiver en 1992. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre souvenir de cette journée ?
J'étais en troisième et on attendait la décision du CIO. Alors c'était Juan Antonio Samaranch qui était le président du CIO à l'époque. Il y avait un vrai suspense, on l'attendait cette décision. Et je crois que c'était juste vers 13h30. Et donc c'est le début, on avait cours de biologie juste après. J'avais amené une petite radio comme ça, donc on était autour de la radio, on avait les cartables par terre. Puis on attendait cette date en direct sur France Inter.
Nous devrions avoir le verdict dans quelques instants.
Le prof nous attendait gentiment, parce qu'il a compris que c'était important pour nous.
A attribué l'organisation de jeux de la 25e Olympiade 1992, jeu d'hiver.
Et au moment où Samaranch, avec son accent catalan, prononce le nom Albertville, qui n'est pas facile à prononcer.
Albertville, France,
Albertville. On a levé les bras, on a bondi, je me souviens, on a hurlé, on était super contents. Ouais, c'est d'un seul coup, en fait, nos stations de ski, nos villages, nos villes, là où on vivait au quotidien, devenaient au centre du monde, quelque part. En tout cas, on avait cette impression-là.
Des embrassades, des accolades, tout le monde se félicite.
Il y a un détail dont je me souviens, je ne sais pas pourquoi je me souviens de ça, mais aujourd'hui, ça fait tellement de sens. On rentre en cours, donc on était encore un peu fébrile, comme ça, et le prof de biologie nous a, avec sa blouse blanche, comme ça, il nous a tout de suite ramené sur Terre en disant « Vous savez, c'est peut-être pas une si bonne nouvelle qu'on ait les JO. » Et évidemment, on ne comprenait pas. Moi, je ne comprenais pas ce qu'il disait. C'est un rabat-joie, il n'a pas compris. Alors, c'est vrai que pour les JO de 92, bon, on peut considérer que ça a été positif pour le territoire. Et on peut être fier de ce qui a été réalisé.
Bonsoir à tous.
Madame.
Merci d'être avec nous.
Mademoiselle. Monsieur. Nous vous invitons à prendre part au 16e jeu olympique d'hiver d'Albertville et de la Savoie.
Et j'aimerais que cette soirée soit pour vous une fête, un cadeau, un moment de bonheur.
Les territoires de montagne en 92 avaient besoin de booster leur économie du ski. L'immobilier est reparti parce qu'il avait connu une petite période de faiblesse à la fin 80, début 90. Donc c'est vrai que les JO se sont inscrits à ce moment-là dans une dynamique qui a été globalement bénéfique pour le développement de l'économie du sport d'hiver.
remercie l'armée française et les chasseurs alpins. Il porte le drapeau, symbole magistral, qui doit être hissé en haut du mât central.
2030, c'est complètement autre chose. On a des territoires ici et qui, à l'inverse, se vident de leurs habitants à cause de l'augmentation des prix du foncier et de l'immobilier. On a un nombre de résidences secondaires qui est délirant. Donc, si vous voulez, c'est quelques caractéristiques. Et là, je n'ai pas encore parlé du réchauffement climatique. Je n'ai pas encore parlé des phénomènes climatiques extrêmes. Je n'ai pas encore parlé de la fonte du permafrost. Je n'ai pas encore parlé du manque de ressources en eau. Je n'ai pas parlé de la nécessaire décarbonation du transport, qui sont des enjeux auxquels les stations de ski vont devoir répondre. Elles n'auront pas le choix.
La neige fait partie de la culture montagne. Et ce qui est incroyable quand on vit dans les Alpes et qu'on ne peut pas vivre à Paris, c'est justement ces changements de saison. C'est-à-dire, l'hiver, il fait froid, il neige, la mobilité est contrainte. Et pour autant, on adore vivre dans ces endroits. Malheureusement, là, les saisons sont de moins en moins marquées. Et même si moi, je ne suis pas originaire de ces territoires, ça affecte aussi moi-même mon imaginaire de me dire « mais je suis venue vivre ici, dans ce territoire, pour cela ». Et pour autant, ça change trop vite, en fait. Je m'appelle Fiona Mille et je suis présidente de l'association Montagne Wilderness France. C'est une association qui a été créée il y a près de 35 ans, dont l'objectif, c'est de concilier la protection des espaces de montagne avec la montagne à vivre, parce que la montagne, elle est également habitée et traversée par les humains. Moi, je suis originaire du bassin minier, du nord de la France, donc d'un petit village où, en effet, il y avait les mines. Et j'ai eu l'occasion de découvrir la montagne en étant très jeune, en allant dans les Pyrénées. Et puis, je pense que dès que j'ai découvert la montagne, j'ai su que j'y allais faire ma vie.
Est-ce que vous étiez née en 1992 ?
Ah non, je suis née en 96.
Donc, vous n'avez pas de souvenirs des Jeux Olympiques d'Albertville?
J'ai pas les souvenirs que les Alpins peuvent avoir de ces Jeux d'hiver, parce que les Jeux d'Albertville, comme ceux de Grenoble, ont vraiment marqué l'histoire alpine. Mais moi, quand j'étais plus jeune, en effet, bien évidemment, ces images des JO, ils m'ont aussi donné envie d'aller faire du sport en montagne, d'aller découvrir la montagne. Je vois bien aussi à quel point ils ont pu émerveiller des générations, donner envie à certains de se lancer vraiment dans des carrières sportives, de passer leur loisir à faire du ski ou des activités de sport d'hiver. Parce qu'en effet, il y avait quelque chose assez d'euphorique autour de ces sports d'hiver.
Le Comité international olympique,
Thomas Bach,
a l'honneur d'annoncer,
président du Comité international olympique, juillet 2024,
que le 26e Jeux olympiques d'hiver 2030 sont attribués aux Alpes français.
Vadim, est-ce que vous êtes heureux à cette idée ?
Ah ouais, après Paris 2024, ça fait rêver qu'on ait encore les JO ici. Je pense que ça peut faire avoir un rayonnement incroyable, déjà une deuxième fois à la France et puis aux Alpes françaises. Moi, en tout cas, ça me fait rêver et peut-être que je vais avoir l'occasion d'aller les voir et même ou d'y participer en tant que bénévole. Donc, ouais, c'est insolite. Je sais pas.
Moi, je pense quand même que ça va attirer beaucoup de gens, voire beaucoup trop de gens. Après, c'est sûr, économiquement, ça va être plutôt pas mal. Et puis, je pense qu'il y aura le personnel, enfin, il y a tout qui va monter, les camions, les machins. Et je pense que quand même, ça va faire beaucoup de trafic dans les stations.
Après, c'est à voir comment ça va être mis en place, qu'est-ce qui sera mis en place pour l'environnement, pour pas qu'il y ait de nouvelles constructions, pour réutiliser les anciennes, pour accueillir tout le personnel, tous les athlètes. Enfin, c'est la logistique après qui est à voir sur comment ils vont faire en sorte de pas aggraver l'état des montagnes, quoi. Mais pour l'instant, c'est à l'état vraiment de projet pour moi. C'est pas encore assez concret.
Vous, Fiona Mille, comment est-ce que vous avez réagi à cette annonce des Jeux Olympiques 2030 dans les Alpes ? Vous étiez enthousiaste ?
Non, j'étais pas enthousiaste justement parce que pour moi, ces Jeux d'hiver, ils sont presque anachroniques avec les enjeux du 21e siècle. Autant ils ont compté dans l'histoire des Alpes, et l'enjeu, c'est pas de juger le passé, autant ils me paraissent assez incompatibles avec les perspectives qu'on doit prendre pour nos montagnes demain. on est dans des territoires qui sont sentinelles des effets du dérèglement climatique. Hiver après hiver, on constate justement cet emballement climatique en cours. Et moi, je trouve ça problématique de dire, en 2030, on va faire rêver des jeunes, des ados autour de la pratique du ski dans des montagnes qui malheureusement sont quand même en train de fondre. Et là, je me dis, est-ce qu'on n'est pas un peu en panne d'imagination? C'est que on essaye de continuer à fédérer et à se donner aussi des perspectives collectives autour des sports d'hiver, alors que ça, c'est quand même notre passé. Les Alpes, elles ont bien mieux à offrir que des sports d'hiver en 2030 et que c'est dommage de les limiter à cela.
Guillaume Desmures, l'imaginaire qui est mobilisé par ces Jeux Olympiques de 2030, c'est, entre guillemets, neige et chalet, c'est ça ?
Oui, alors ça, c'est ce que répète Renaud Muselier, président de la région PACA. Visiblement, il n'a pas dû aller en station de ski depuis un bon moment, parce que des chalets, il n'y en a quand même pas beaucoup dans les stations de ski, et de la neige, il n'y en a quand même pas beaucoup non plus. Donc ça fait partie des mensonges de communication qui n'ont aucun sens. Ce que transmet, propage et valorise aussi les Jeux Olympiques d'hiver, c'est un certain imaginaire du sport de montagne. Les Jeux Olympiques, aujourd'hui, dans l'imaginaire qu'ils mettent en œuvre, ça reste le ski alpin, les bronzés font du ski. On est toujours aujourd'hui coincé dans l'imaginaire, les bronzés font du ski. On monte à la montagne une semaine, on loge dans un appart, on fait du ski sur les pistes avec un moniteur de ski habillé en rouge, on va boire une petite gnôle, et puis c'est les vacances à la neige. On est toujours dans cet imaginaire-là. Et les JO continuent de maintenir cet imaginaire-là. Le CIO a choisi les Alpes françaises pour organiser les JO 2030 officiellement, parce que c'est un beau territoire, qui a déjà organisé les JO, qui est prêt, qui sait faire. Bon, tout ça, c'est du blabla. Il y a plein de territoires dans le monde qui savent le faire aussi. La réalité, c'est que le CIO a de plus en plus de mal à trouver des sites capables d'organiser des Jeux Olympiques d'hiver, notamment en raison du réchauffement climatique, et surtout qu'ils sont prêts à payer. Et puis, troisième élément, le CIO a de plus en plus de mal à trouver des sites d'organisation des JO qui n'imposent pas un référendum populaire. C'était le cas de la Suisse et de la Suède, qui avaient tous les deux des candidatures concurrentes à celles des Alpes françaises, et qui avaient prévu, dans leur candidature, d'organiser un référendum populaire pour demander l'avis à la population. Est-ce qu'on les organise ou pas ? Le CIO sait qu'à chaque fois que ces référendums sont organisés, la réponse est négative. Donc, ils ne veulent pas ce genre de référendum. Il n'y a absolument rien de démocratique dans le fonctionnement du CIO. Il n'y a absolument rien de démocratique dans l'attribution des jeux. Voilà. Ça n'a jamais été le cas. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé. Aujourd'hui, les JO 2030, c'est une histoire politique. C'est une histoire entre Laurent Wauquiez, ancien président de la région Rhône-Alpes, Renaud Muselier, président de la région PACA, David Lapartien, qui est député, ancien maire, et puis surtout président du comité olympique français. Donc voilà, c'est une histoire en fait, avec évidemment Emmanuel Macron, c'est une histoire entre eux. D'ailleurs, dans tout le déroulé de la candidature, c'est un des éléments marquants. C'est qu'il n'y avait quasiment aucun sportif. Les deux ou trois sportifs qu'on voyait sur les photos, c'était des sportifs, comme Vincent Jay, qui sont salariés de la région Rhône-Alpes.
France Inter, 3 février 2025.
La politique qui se glisse aussi dans le sport. On parle de la présidence du comité d'organisation des Jeux d'hiver de 2030 qui auront lieu, faut-il le rappeler, en France, dans les Alpes. Depuis des semaines, Emmanuel Macron pousse la candidature du sextuple champion olympique de biathlon, Martin Fourcade, quand l'homme fort de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, lui, n'en veut pas. Et bien ce matin, Martin Fourcade a donc renoncé, Emma Sarango, un caillou de plus dans la chaussure de ces JO mal partis.
Je ne peux pas me résoudre à sacrifier mes convictions, écrit Martin Fourcade, qui souhaitait porter des jeux en phase avec leur époque, conscient des enjeux écologiques, mais qui regrette, je cite, que cette vision ne soit pas partagée par les acteurs du dossier.
Ça va être des JO populaires, ça va être des JO durables, c'est ce que disent les promoteurs de la candidature. Et puis, ça va être des JO économes et qui vont être au service de la transition des territoires de montagne. Bon, j'ai passé quelques mois à enquêter pour mon bouquin et la réponse est non. Aujourd'hui, avec les informations dont on dispose, ces JO ne seront ni durables, ils ne seront pas populaires, ils ne le sont pas aujourd'hui, ils ne seront pas économes, et surtout, ils ne seront pas du tout au service de la transition de la montagne. Pour une raison très simple, il n'y a pas de stratégie de transition de la montagne, à l'exception de trois stations, Tignes, Bourg-Saint-Maurice et Métabier. Trois stations qui ne sont pas d'ailleurs des stations olympiques.
Cela tombe bien, Bourg-Saint-Maurice est à deux pas d'Albertville. Allons donc y chercher l'inspiration.
Bonsoir.
Nous avons pris rendez-vous avec un autre Guillaume, Guillaume Desrues, maire de la ville. Avec son équipe et le glaciologue Jean-Baptiste Bosson, qui est attendu en visio, ils préparent un événement de démocratie citoyenne qu'ils ont appelé « Agir pour les glaciers », entre parenthèses, et les écosystèmes qui leur succèdent.
Quand t'écoutes JB parler des glaciers, enfin, pourtant je les connais les glaciers, mais il a ouvert des portes et des imaginaires que j'imaginais même pas. Je trouve qu'il arrive à embarquer et à t'émerveiller et à te donner envie de t'impliquer.
Émilie Galeret, chef de cabinet.
Le maire a souhaité, avant ce festival aussi, qu'on fasse un temps de concertation, ouais, d'échange avec les socioprofessionnels, des agriculteurs, des guides, des accompagnateurs, l'ONF, EDF aussi, qui a des captages en altitude, pour aborder cette question de la préservation, de la protection des écosystèmes. Et voilà.
On peut grignoter, sinon on attend.
Ouais, vas-y.
Tu peux grignoter tant que tu veux. Il y a du Beaufort, de la Tome, il y a de la charcuterie.
L'hiver et Beaufort
l'été. L'hiver, il a un an. Donc je trouve qu'il
doit plus mature. Ah, il faut goûter les deux, en fait.
Il faut goûter les deux.
Guillaume Desrues, depuis quand habitez-vous à Bourg-Saint-Maurice? Qu'est-ce que vous faisiez avant d'être maire?
Alors c'est assez drôle puisque tout le monde croit que je suis natif d'ici. Il y aurait comme une légende qui dit qu'il faudrait avoir trois grands-mères dans le cimetière pour pouvoir être élu maire. Non, moi c'est tout simplement un rêve d'enfant. Mon rêve d'enfant c'était d'habiter à la montagne. Je suis venu faire mes études à Chambéry et donc j'ai été enseignant en physique-chimie. Et notamment au lycée de Bourg-Saint-Maurice. Et la première fois où je suis arrivé à Bourg-Saint-Maurice, je savais que c'était ici que je vivrais. Bourg-Saint-Maurice, c'est une petite ville nichée au cœur de la Haute-Tarentaise, dans la Savoie, dans les Alpes françaises. Et c'est une petite ville qui est ultra singulière. Déjà parce qu'elle va de 800 à 3800 mètres d'altitude. C'est une ville de montagne où la montagne est omniprésente. C'est aussi la station des Arcs. Et la station des Arcs, c'est une des plus grandes stations de ski du monde, avec 40 000 lits touristiques. C'est-à-dire que tous les hivers, vous avez des dizaines de milliers de personnes qui transitent par Bourg-Saint-Maurice pour aller soit aux Arcs, soit à Tignes ou Val d'Isère, qui sont les stations les plus proches.
Et alors comment est-ce que vous vous retrouvez à la tête d'une liste pour les élections à Bourg-Saint-Maurice? Et quel est un peu le projet que vous défendez à ce moment-là?
Alors ça, c'est une sacrée question. Un soir, on est allé voir un film au cinéma de Bourg-Saint-Maurice qui s'appelle « Démocratie ». Et dans ce film, on nous montrait tout un panel d'exemples de démocratie participative locale. On était avec des amis et on est ressorti de cette séance. Et là, on s'est dit « Ah, mais en fait, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de notre démocratie locale ». Et donc, à partir de ça, on avait ce côté un peu potache où on a lancé une série d'apéro-débats. Et donc, de fil en aiguille, eh bien, on a sollicité tous nos réseaux, justement, pour savoir s'il était pertinent de présenter une liste plutôt citoyenne, vous l'aurez compris. Et pour le coup, le résultat des élections en 2020 a été assez éloquent, puisqu'on a eu un score qui a été assez significatif par rapport à l'équipe sortante. Vous faites un petit test son, messieurs ?
Oui.
Ça coupe un peu. Donc le but, ouais, c'était de refaire un point sur l'organisation de ces journées.
Techniquement, tu interviens en premier avec l'annonce du festival et le remerciement des participants. Si possible, ce serait bien de ne pas en dire trop pour éviter des biais chez les participants, parce que l'objectif de Jean-Baptiste, c'est quand même de récupérer de l'information et donc de ne pas trop les influencer. Ce qui serait top, c'est de bien leur faire comprendre que la majorité du temps sera consacrée à les écouter et à récolter leurs remarques.
Ce qu'on a réussi à montrer à Bourg-Saint-Maurice et aux Arcs, c'est qu'en fait, on pouvait continuer à avoir une gestion responsable des choses tout en prenant des virages certains. Quand on dit « arrêt des constructions touristiques aux Arcs », je pense que ça a fait grincer des dents. Et en même temps, maintenant, pour beaucoup de monde, c'est rentré dans la norme. c'est presque rentré dans la société française, puisqu'il y a eu des lois aussi en 2021 là-dessus, qui disent, bah, attention, maintenant, chaque mètre carré de terrain artificialisé, il va falloir le justifier. Et sur ce sujet de l'artificialisation pour des résidences touristiques, on a montré quelque part une nouvelle voie et qu'on pouvait continuer à très bien vivre sans forcément continuer à détruire notre environnement. Après, nous, ce qu'on essaie de montrer ici, c'est que, oui, on a cette grande chance d'avoir une industrie du tourisme qui est remarquable, qui, effectivement, compte tenu des enjeux climatiques, va être en péril dans les années qui viennent. Et nous, notre philosophie, c'est de se dire, on a une partie de cette économie du ski qu'on peut réinjecter et réinvestir pour notre avenir, que ce soit dans le logement, dans l'énergie, dans une nouvelle économie, et de se dire, bah voilà, on est en train de poser les briques d'une économie de montagne qui sera un petit peu plus adaptée et qui va nous permettre d'amortir le choc. Après, vous le savez, on est plutôt préservé parce qu'on a une altitude plutôt haute, mais moi, il y a un proverbe que j'aime beaucoup en Savoie qui dit « c'est quand il fait beau que tu répares ton toit ». Eh bien, c'est ce qu'on est en train de faire.
Deuxième phase, faire un débat mouvant. Alors,
on
là,
fait
je suis
avant
quand même.
JB, du coup.
Ouais, on le fait avant JB pour éviter que, pareil, il y ait un biais. Le débat mouvant, il aura pour thème les glaciers de Bourg-Saint-Maurice et les espaces qui vont leur succéder sont-ils à protéger ? On est très cash. Et alors, pour organiser ce débat, ils vont devoir trouver trois arguments, chaque groupe, de pourquoi on protège ou pourquoi on ne protège pas. Et on leur a créé des questions intermédiaires pour les aider à trouver ces arguments. Ces questions intermédiaires, c'est quels écosystèmes naissent du retrait glaciaire ? Quelles sont les menaces existantes et futures pour les glaciers et les écosystèmes qui leur succèdent ? Et comment protéger les glaciers actuels et les écosystèmes qui vont émerger ? Donc, ça permet de les guider.
La montagne, elle sera toujours là. Les grands paysages seront là. Et on sera capable de proposer une destination fantastique, quelle que soit la période de l'année.
Là, vous nous parlez du tourisme. Est-ce qu'il n'y a que le tourisme comme mode de survie pour les territoires de montagne à l'avenir ?
Pas que, mais ce serait un peu. Ce serait une erreur de croire qu'on pourrait faire sans. Nous, notre idée, c'est de continuer à accueillir l'Europe entière. On est un lieu qui a toujours été cosmopolite de par son histoire, le fait qu'on soit à côté de la frontière italienne, le fait qu'on ait eu la construction du barrage de Tignes, il y a toujours eu énormément de brassages. C'est l'identité de notre territoire, à la fois très montagnarde et à la fois très cosmopolite. Et donc, je pense que ce serait vraiment une erreur de dire « Non, on va faire sans tourisme ». Non, on va faire avec le tourisme, mais on va le faire différemment. Et on est en train de préparer notre économie à faire justement différemment.
Le discours que vous tenez, Guillaume Desrues, il est original, voire à contre-courant par rapport à beaucoup de discours politiques dans les Alpes françaises. Il est aussi à contre-courant d'intérêts économiques très forts dans la région. Vous devez vous confronter à une certaine forme d'opposition.
Alors, ce sentiment, je l'ai ressenti en tout début de mandat. Et notamment, il y a eu un Premier ministre qui a eu la très bonne idée de venir présenter son plan montagne à Bourg-Saint-Maurice. Et là, j'ai senti qu'il y avait toutes les lumières rouges sur ma tête qui s'allumaient, des snipers. Et effectivement, oui, en début de mandat, bah, c'est vrai qu'on est arrivé, plébiscite au niveau des élections. Les premières mesures, on arrête les constructions, etc., aux arcs, on propose un autre modèle. Et là, effectivement, il y a la vieille garde qui a commencé à se dire « Oula, qu'est-ce qui se passe à Bourg-Saint-Maurice ? Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire ?» Je pense que ça s'est apaisé, parce que bah déjà, la voie qu'on a montrée, un, fait ses preuves, deux, ça devient des attentes de toutes les populations, pas uniquement à Bourg-Saint-Maurice, qui serait le village gaulois un petit peu esselé au sein de la Tarentaise. Tignes, qui est en train de réaliser exactement le même type de démarche sur son territoire. Et Tignes est également un des fleurons de l'industrie touristique française. Donc je pense que quelque part, on a un peu essaimé justement un certain nombre de pensées et de projets qui montrent justement peut-être une autre voie.
Moi, j'avais juste encore deux autres points. Il y avait un côté très pratique sur le pot qu'on fait après. Personne ne le gère, j'ai l'impression.
Non. Est-ce que le pot, il peut être végétarien ?
La charcuterie, alors, c'est pas de la viande.
On veut bien la betterave. Non, je sais pas ce que vous en pensez.
Non, mais oui, oui, t'as raison.
Pas des acteurs locaux,
t'as raison.
Ça peut être mal pris. Et l'impact carbone de la viande est assez délétère.
Après, sur l'organisation de la salle, il faut...
Saucisson de Savoie ou glacier, il faut choisir. À Bourg-Saint-Maurice, je sens qu'on veut me donner l'image d'une transition heureuse, sans accroc, où on se donne les moyens de penser l'après-neige. Il faut dire que côté moyen, on n'est pas en reste. La station de ski de la commune, Les Arcs, fait partie des trois stations au plus gros chiffre d'affaires en France. 96 millions d'euros pour la saison 2023-2024. Mais là où de tels intérêts financiers interdisent tout débat, ici, il a le mérite d'exister. Alors bon, est-ce que la fin de la neige se résoudra à coup de débats mouvants ? Je laisse la question en suspens. Dans d'autres pays de neige, en tout cas, la voix des habitants a déjà pu changer le cours de l'histoire. Archivina, 1973.
Organiser les Jeux Olympiques, dit-on, est un grand honneur pour une ville. Les cow-boys ont dit non. Les Jeux Olympiques mobilisent tous les habitants de la ville et renforcent leur esprit de communauté. Les cow-boys ont dit non. Le jour des élections, tout en votant pour leur président, les citoyens du Colorado ont dû décider s'ils voulaient des Jeux Olympiques. 60% ont répondu non.
Je pense que la population a voté contre le financement des Jeux pour une raison d'écologie et d'environnement. Je pense que beaucoup de gens étaient très inquiets des dégâts qui menaçaient l'environnement naturel de l'État. Ils ont imaginé les milliers, les millions de gens qui viendraient pour les Jeux, et ils ont jugé que leur présence dans le Colorado nuirait à l'environnement.
Guillaume Desmures, si on veut savoir ce qui est souhaitable pour les Alpes en 2030 et ces Jeux d'hiver, c'est peut-être pas Albertville en 1992 qu'il faut revenir, mais plutôt aller vers les États-Unis, à Denver en 1976. Vous êtes documenté, vous avez enquêté. Est-ce que vous pouvez nous raconter ?
Alors c'est vrai que j'ai découvert, j'ignorais totalement cette histoire des JO d'hiver de Denver 76. JO d'hiver qui n'ont pas eu lieu. Denver, capitale du Colorado, est sélectionnée par le CIO, désignée par le CIO comme ville hôte des JO d'hiver 76 en 1970. À Denver s'organise une collection assez hétéroclite d'activistes qui disent ne dépensons pas l'argent du contribuable dans les Jeux Olympiques. Ils organisent donc un référendum à l'automne 72. Le référendum est victorieux pour eux. L'État du Colorado est donc contraint de dire nous ne dépenserons pas d'argent public dans les JO de 76. L'État fédéral dit bah, si vous ne mettez pas au pot, nous on ne mettra pas. Et là, le CIO dit, bon, ben, ok, on trouve une autre solution, on les organise à Innsbruck. Fin de l'histoire. C'est le seul exemple dans l'histoire moderne des Jeux Olympiques d'une ville qui est désignée par le CIO et qui réussit à faire annuler ces JO.
Je ne pense pas qu'en France, c'eût été possible. Je ne crois pas que le bulletin de vote des Français a autant de poids que le bulletin de vote des Américains, un pour un.
Guillaume Desmures, est-ce que des Jeux Olympiques d'hiver idéaux dans 20 ans, 30 ans seront toujours des Jeux de neige ?
Les JO d'hiver, déjà aujourd'hui, sont des JO de neige de culture. La neige naturelle n'a pas grand-chose à voir, à faire dans les Jeux Olympiques. Les exigences techniques de dureté de la neige pour le ski alpin et pour le ski de fond nécessitent de la production de neige de culture. Après, on peut se poser la question de l'évolution des sports d'hiver avec le réchauffement climatique. Est-ce que demain, on continuera à faire du ski sur la neige ? Il y a plein d'exemples aujourd'hui d'endroits où on skie sur autre chose que de la neige. Au Danemark, sur le toit, c'est magnifique d'ailleurs, sur le toit d'une usine d'incinération, ils ont carrément fait des pistes avec un tapis. On pourrait imaginer, ça a déjà été fait aussi, poser des tapis sur la montagne et puis skier là-dessus. On pourrait imaginer des Jeux Olympiques comme ça. Est-ce que ça aurait de l'intérêt ? Je ne sais pas. Donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est de quelle façon les JO d'hiver pourraient aider à transformer l'imaginaire ? Peut-être que demain, il n'y aura plus de JO d'hiver. Peut-être qu'il faut se rendre à l'évidence. Demain, il ne sera plus possible d'organiser sans des dépenses énergétiques faramineuses. C'est déjà le cas aujourd'hui un petit peu. Des JO d'hiver. Donc, peut-être que demain, les JO d'hiver s'arrêteront faute de lieux pour organiser ces JO, et puis s'arrêteront faute de sportifs. si les sportifs ne peuvent plus ou ont du mal à s'entraîner le reste de l'année, les sports vont devenir de plus en plus confidentiels. Peut-être que les JO d'hiver n'auront plus lieu d'être.
Nous sommes à Bourg-Saint-Maurice, on voit le paysage ensoleillé, un grand ciel bleu, les sommets enneigés et la neige qui descend presque jusqu'au village, c'est vraiment la carte postale. On a beaucoup de chance de ce qu'on nous a dit, parce que c'est pas toujours comme ça quand même l'hiver. Et là tout de suite on est Allée des Artistes, où la nouvelle municipalité a ouvert une friche artistique et solidaire il y a 3 ans. On y trouve 15 ateliers d'artistes et on va aller les rencontrer pour voir ce qu'ils peuvent nous dire de la neige. Bonjour.
Je suis Marie-Laure Bazani, je travaille à la friche.
Enchantée.
Du coup, quelques-unes des artistes que vous allez pouvoir découvrir. Et en effet, en termes de diversité de profils, je pense que vous tombez à pic. Il y a même un homme ce matin. Donc sérigraphie, artiste pluridisciplinaire, graveur. Oui, c'est juste qu'ils ne sont pas là.
On est assez paritaire quand même.
Mais on se faisait la réflexion, c'est intéressant, c'est que vous seriez venu la semaine prochaine, la station aurait été ouverte, vous auriez eu un petit peu moins d'artistes.
Comment ça se fait ?
Parce que certains d'entre eux ont une activité parallèle.
De temps en temps, avec des rémunérations qui tiennent la route.
Sûre et certaine. Allez, c'est parti. Vous connaissez l'histoire du bâtiment ?
Pas vraiment, j'ai bien
dit. Donc il y a une dizaine d'années, il y avait une caserne militaire à Bourg-Saint-Maurice qui a été détruite il y a une dizaine d'années. Et là, vous êtes dans le bâtiment qui, auparavant, était l'ancienne infirmerie. Voilà. Donc ces lieux ont une histoire et les artistes pour ce bâtiment sont en train de réinventer une seconde histoire. Mais vous verrez, par endroits, c'est assez amusant parce qu'on retrouve des éléments qui font référence à l'ancienne infirmerie.
Ça sent plus l'hôpital, on a déjà soigné les murs, on a nettoyé le sang. Là, j'ai la vue sur la plus belle, pour moi, c'est la plus belle, c'est le Royer. C'est ma préférée, mais de loin. Et j'ai un peu choisi cet atelier aussi parce que je me suis dit que je la verrais d'ici. Donc quand je suis à mon tour de potier, là, je regarde, et là, elle est enneigée, c'est absolument magnifique. Alors moi, je suis Magali Biolay, je suis céramiste, donc à la friche artistique, depuis le 1er août 2023. Et j'ai un peu quitté la montagne parce qu'ici, c'était très, très, très sportif. J'étais entourée de moniteurs, de pisteurs et compagnie. Et je suis allée me réfugier dans la ville. J'aimais bien la dimension un peu plus culturelle et artistique là-bas. Et puis je suis revenue en me disant, mais peut-être qu'on peut faire quelque chose aussi à la montagne qui est sympa. Et donc là, maintenant, j'allie ma pratique avec ce beau décor qu'on a autour de nous. Et ça m'inspire au quotidien. J'ai même fait des assiettes de montagne, d'ailleurs, que je peux vous montrer. Voilà, donc des petites aspirations au quotidien. Alors, c'est une assiette en grès. Elle est faite autour de potiers et la montagne est modelée à côté. Donc, elle est modelée principalement avec mes mains, très peu d'outils. Et je la colle après le lendemain sur l'assiette qui est déjà tournassée, donc qui a un pied et un tour. Et les montagnes, elles sortent un peu de mon imagination. Quoi. Ça m'inspire quand je vais en balade et tout ça. Mais ça ne représente pas une montagne en particulier. La couleur, alors c'est du grès blanc, nature, émaillé en blanc. Et je l'ai aussi en émail transparent.
Pourquoi voilà. Le blanc ?
Le blanc, alors ça va être le modèle plutôt hiver. Ça fait vraiment ressortir les arêtes, les creux, les crevasses et tout ça. Donc je trouve ça très sympa.
Et de la neige.
Voilà, on dirait de la neige, exactement. Et le modèle plutôt passe-partout, qui reste nature, donc comme ça elle sera très nature, on pourra mettre en valeur plutôt le dessert qui va accompagner l'assiette.
Ça s'adresse à qui, des particuliers, des restaurateurs?
Ça c'est une commande pour un restaurateur sur Bourg-Saint-Maurice. Et je fais des émaux plutôt blancs, plutôt épurés, j'aime bien ce style plutôt que la couleur vive. Donc je pense aussi que c'est un petit peu inspiré de la neige, je sais pas à quel point, mais certainement un peu.
Du coup on va commencer à l'étage. Une quinzaine d'artistes au total. Alors, on va aller rencontrer Antoine qui est graphiste et qui fait la sérigraphie.
Je m'appelle Antoine Guérin, donc je suis ici depuis un an maintenant. J'ai monté mon petit atelier de sérigraphie et ce que je fais, c'est un peu sur les murs. Donc je fais pas mal d'illustrations. Et là, le dernier que j'ai fait, il est derrière, il est en train de sécher. Donc ça, c'est bêtement une illus sur Bourg. Donc j'ai un peu repris tout ce qui se passe à Bourg-Saint-Maurice. Donc c'est vrai qu'on a le Funi. Ouais, bien sûr. Donc avec le Funi, qui est un peu la pièce centrale de Bourg, qui crée vraiment le lien entre... c'est un ascenseur valéen, quoi. Donc du coup, entre la station et le village. Et après, tout ce qui se passe autour de Bourg. Donc il y a forcément... le ski, mais j'ai aussi mis le vélo, les gens qui courent, le kayak, le skate, le parapente, la montagne, les agriculteurs aussi, parce que c'est quand même une partie hyper importante du territoire, c'est l'agriculture.
Est-ce que l'imaginaire que vous mobilisez dans cette illustration, vous pensez qu'il est un peu différent de l'imaginaire qu'on retrouve dans la plupart des souvenirs touristiques à Bourg-Saint-Maurice ? Je sais pas, je pense à la neige, par exemple.
Ouais.
Elle est présente, mais surtout sur les hauteurs. Elle n'est pas forcément centrale dans ce dessin. Est-ce que c'est des questions que vous vous posez quand vous représentez Bourg-Saint-Maurice ?
En fait, Bourg-Saint-Maurice, je pense que pour beaucoup de gens... Enfin, et moi, je ne les blâme pas, hein, parce que moi, je viens ici depuis que j'ai 7 ans, et au début, c'était vraiment que l'hiver pour faire du ski. Et je pense que pour beaucoup de gens, Bourg-Saint-Maurice, c'est les Arcs. Et en fait... Moi, maintenant, j'ai passé 2 étés ici et je préfère l'été, alors que je suis un gros skieur, j'adore le ski. Mais en fait, l'été, on a une liberté dans cet endroit qui est beaucoup plus importante. Et c'est vrai que du coup, l'été, c'est un terrain de jeu qui est immense. Et moi, je pense que c'est plus ça aujourd'hui que j'ai envie de représenter. C'est que, ouais, le ski, ouais, c'est hyper cool. Hein. Moi, là, je vais passer 4 mois énormes. Mais au bout de 4 mois, je vais être content de voir la neige fondre et de pouvoir commencer à aller courir, me balader. Enfin, le printemps, il y a toute la nature qui s'éveille. Donc, si on se balade, on va voir des bouquetins, on va voir des... Il y a le jipa, il y a des vautours, il y a énormément de choses. Et je pense que c'est aussi ce que j'ai voulu représenter un peu là-dessus. Puis, il y a le côté aussi ville qui vit, qui est assez important ici, je trouve.
Vous qui êtes jeune et qui voulez rester à la montagne, qu'est-ce que vous imaginez pour demain ? Comment est-ce que la montagne s'en sort pour survivre ? Enfin, pas la montagne d'ailleurs, mais plutôt ses habitants. Daphné ?
Pour moi, ça restera quand même un long moment attractif, notamment dans les grosses stations. Parce qu'on voit déjà l'été le développement de plein de nouvelles activités. Il y a de plus en plus de monde qui viennent en montagne l'été. Du coup, pour moi, ça a quand même, même sans la neige, quelques belles années aussi dans le 4 saisons. Peut-être pas toute l'année, mais au moins sur les périodes de vacances, quoi. Après, c'est pour du coup les personnes qui vivent grâce au tourisme, mais s'il n'y a pas forcément l'aspect touristique, c'est difficile à dire.
Ouais, il y a le sujet de toutes les stations et tous les offices du tourisme et tout, c'est les stations 4 saisons. Bon, il n'y a pas de réponse parce que sinon ça serait trop facile. Mais ça, c'est un gros sujet, ouais. Sur la montagne toute l'année. Pour l'instant, on a la montagne l'hiver. On commence à développer la montagne l'été, mais bon, face à la plage, il y a de la concurrence. Et printemps, automne, là, je ne vous en parle même pas. Pour l'instant, c'est ville déserte.
C'est fantomatique. C'est souvent très vide comme station. C'est le retour des vacances d'été. Donc septembre, octobre, c'est un peu vide, très vide. Et avril, voire mai, plus mai, juin, là aussi ça se vide. Il y a tout qui est fermé, ça fait pas rêver, quoi.
Vous imaginez pas que la montagne puisse vivre avec autre chose que le tourisme ?
Je pense pas. Enfin, ça m'étonnerait.
Le tourisme représente près de 9% des émissions de gaz à effet de serre mondial, selon une étude publiée en 2024 dans la revue Nature Communications. Et ces émissions ne font qu'augmenter d'année en année, allant à l'encontre de l'accord de Paris sur le climat, qui exige que le secteur du tourisme réduise ses émissions de plus de 10% par an. Alors, que l'avenir de la montagne soit dans le tourisme, sur un continent qui vise la neutralité carbone, permettez-moi de douter. Dans son essai « Réinventons la montagne », Fiona Mill, la jeune présidente de Mountain Wilderness France, explore différents scénarios à horizon 2030. Elle se garde bien de condamner le tourisme dans son ensemble, mais elle cherche d'autres possibles.
On a besoin de services de proximité, on a besoin d'agriculture, on a besoin aussi d'artisanat. Et en fait, ce qui va faire la richesse de nos territoires de montagne, c'est cette économie qui est profondément diversifiée et qui permet peut-être une montagne à vivre à l'année. Ce que ne permettent pas toujours les sports d'hiver. Quand on va dans une station en 2024, bah malheureusement, les volets sont fermés une grande partie de l'année. Bah moi, j'ose rêver que dans quelques années, on ira en station et que les volets seront ouverts toute l'année, parce qu'il y aura des choses à faire en station toute l'année.
C'est-à-dire qu'on vivra à 1800 mètres, 2000 mètres d'altitude dans ces grands immeubles qui sont généralement vides.
Eh ben en fait, ça va vraiment dépendre des stations. En effet, on a des stations de haute montagne, je pense à certaines stations de Tarentaise, où ça va peut-être être compliqué d'aller vivre à l'année parce qu'on les a un peu pensées de manière hors sol en fait. Mais par contre, je pense qu'en Chartreuse, dans le Vercors, moi je vis dans Belledonne, oui, Champrousse, la station à côté de chez moi, il y a une vraie opportunité pour que ça soit une station vivante à l'année. Et c'est déjà le cas. Il y a de plus en plus d'artisans qui s'installent à Champrousse, des Grenoblois qui ont envie de vivre en altitude. Donc oui, les stations ont une vie derrière elles, elles en ont une devant elles, mais il faut véritablement qu'on investisse dans ces modèles d'avenir.
On a un forgeron qui est là, qui fait beaucoup de bruit. Mais voilà, il nous a envoyé un message pour nous stipuler qu'il ne pourrait pas être là. Donc du coup, bah, je vous laisse poursuivre.
Moi, je veux bien aller comme ça.
Parce qu'elle va aller bosser après.
Ouais, bah, du coup, j'ai de coller.
Alors, bienvenue dans l'atelier. Voilà. Alors, moi, je suis Jade Collet et j'ai une pratique plutôt pluridisciplinaire.
Vous habitez ici depuis longtemps ?
Et j'habite ici depuis 4 ans. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup donc, d'artistes ici qui travaillent, enfin pas que, mais sur la montagne, parce que la nature, elle est tellement puissante, donc forcément, elle est très présente. Donc on voit beaucoup de photos de paysages, de montagnes, de dessins de montagnes. Et moi, ce qui m'intéresse plus, donc, c'est les gens et l'histoire plutôt, et la manière dont peut-être on a colonisé cet espace, montrer aussi un petit peu l'envers du décor. Le travail photo qui a été fait avant, donc l'école buissonnière, c'est vraiment une histoire de personnes plus que de montagnes. Et justement, c'est ces gens qui n'ont pas participé au développement des stations de ski, mais qui ont un rapport à la terre et à leur histoire qui est un peu différent.
Quand vous parlez de colonisation de la montagne, vous faites référence à quoi ?
Ben, à l'or blanc. On a mis beaucoup d'éclairage en fait sur les stations de ski, sur ce développement-là. Pendant longtemps, mais il n'y a pas que ça en fait ici. Il y a aussi des gens qui vivent dans des villages tranquillement, qui ont un autre rapport au temps, à la nature. Il y a aussi des gens qui n'aiment pas skier, qui sont d'ici. Hein. Donc qu'est-ce qu'on fait aussi pour ces gens-là ? Qu'est-ce qu'on propose ? Martine, par exemple, qui sur les photos a un masque de lapin, elle me racontait que dans sa famille, ils avaient une paire de skis en bois pour toute la famille. Donc une paire de skis d'un mètre 80, 10 fois trop grand pour elle. Et elle n'arrêtait pas de tomber, donc on l'appelait le petit lapin blanc, etc. Donc c'est des gens qui ont un rapport à la neige qui va être différent. Eux, ils avaient plus un rapport pastoral, en fait, avec vraiment les animaux, le travail de montagne, d'aller emmener les bêtes quand il fallait monter à partir de juin les troupeaux. Donc ils vont avoir un rapport géographique à la montagne, un rapport quotidien, en fait. Le village est très petit, il y a une rue principale, les maisons sont très serrées pour pas que la neige passe, justement. On sent que tout est très collé parce qu'on allait d'une maison à l'autre pour faire les veillées, pour se réchauffer, pour se protéger de la neige. Voilà, c'est un rapport un peu différent, quoi. Je pense que c'est important pour savoir comment on doit un peu faire dans le futur, ne pas oublier qu'il y a déjà eu des traces de vie ici qui sont passées, comment ils ont vécu eux, comment ils se sont adaptés. On n'a pas toujours besoin d'aller chercher peut-être des choses hyper compliquées pour s'adapter. Il y avait vachement de bon sens, en fait, dans ces rencontres.
Finalement, la neige,
Fiona Mille,
ça rend visible l'accélération de tous les dérèglements climatiques en cours. Et des fois, ces dérèglements climatiques ne sont pas palpables, alors que nous, à l'échelle de quelques années, ça rend visible justement cette... ce bouleversement à l'œuvre. Et donc, en cela, la neige est un élément qu'il faut véritablement regarder avec attention parce que ça rend visible l'invisible. Or, cet invisible, il conditionne toutes nos vies.
Il faudrait apprendre à faire le deuil de la neige, finalement, Fiona Mille ?
De la neige à tout prix. C'est pas forcément un deuil complet. Mais peut-être qu'il faut qu'on apprenne à faire le deuil de ce côté de l'immédiateté, de la permanence. Je pense que dans nos territoires de montagne, il va falloir qu'on apprenne une notion qui est l'adaptabilité. Se dire que quelle que soit la situation, bah oui, on est amené à vivre différemment et pas se dire le modèle économique, on veut qu'il tourne du 1er décembre à fin mars, au quoi qu'il en coûte. Donc la neige a bien évidemment sa place dans les imaginaires de demain. Mais il faut qu'elle elle va devoir trouver sa juste place, en tout cas dans l'économie de demain. Parce que l'économie de nos territoires ne pourra plus être tournée exclusivement vers la neige. La montagne, elle vit à toutes les saisons, avec ou sans neige. C'est merveilleux lorsqu'on en a, mais lorsqu'on n'en a pas, on a encore plein d'autres choses à y faire. Et la montagne peut vraiment nous faire rêver à toutes ces saisons.
Ce qui est étonnant, c'est que vous voulez quand même tous exercer un métier a priori lié à la neige, moniteur, monitrice de ski. Est-ce que ça vous pose quand même un peu question? Est-ce que ça remet en cause vos choix d'avenir?
Moi, pour ma part, quelques mois avant de vraiment commencer la première année d'entraînement du moniteur de ski, du coup, moi, c'était l'année dernière, je me suis vraiment inquiétée à me dire est-ce que c'est le bon choix? Enfin, j'ai remis en question parce que moi, c'est un rêve d'être maîtrise de ski et j'ai vraiment remis ça en question en me disant bah, qu'est-ce que je fais? Enfin, c'est profiter de la neige qui est quand même en train de disparaître, enfin, qu'on voit de moins en moins. Et du coup, ça m'a vraiment inquiétée. Et depuis, j'y réfléchis quand même souvent. Je me dis bon, je fais tant que ça tient, tant que c'est possible de le faire. Je sais pas pour combien d'années. Je sais que je ferai pas ça toute ma vie. Mais je me dis que bon, c'est ce que j'ai envie de faire et que malheureusement, bah, c'est un peu égoïste. Mais j'essaye de faire ce que je peux de mon côté. Et je pense que du moment déjà qu'on en a conscience, c'est déjà bien.
Mais il y a des personnes qui sont moins touchées.
Oui.
Par exemple, enfin, c'est bête à dire, mais j'ai 50 ans, j'approche la fin de carrière. Je sais très bien qu'il y aura assez de neige pour que je finisse ma carrière de moniteur. Je le ressens pas pareil que quelqu'un qui vient de commencer. Et c'est difficile pour eux de se mettre à notre place. Ils ont pas du tout la même vision. Et puis moi, je les comprends. Ils sauront très bien qu'ils vont skier tant qu'ils seront là.
Je suis d'accord qu'en fait, la question, elle est posée, de se dire bah, qu'est-ce qui va se passer, mais en fait on passe vite à autre chose parce que pour l'instant ça marche, on continue comme ça quoi, mais en fait tant qu'on sera pas devant le fait accompli, il se passera rien.
Merci à Daphné Hédin, Jade Laplace et Vadim, à Guillaume Desmures, Fiona Mille, Guillaume Desrues, Jean-Baptiste Bosson, Émilie Galeret, Sylvain Cachat, Marie-Laure Bazani, Magali Biollet, Antoine Guérin et Jade Collet. Merci aussi à Rafik Zénine. Documentation Annelise Signoret, Archivina Samia Jedi, prise de son Virginie Lorda, Mathieu Leroux et Romain Lenoir. Mixage Manon Houssin, chargée de programme Marivona Bolivier et Anaï Morales, coordination Emmanuel Laurentin. C'était Neige, écho d'une disparition, quatrième épisode, Les après-ski, un documentaire de Quentin Tenot réalisé par Agnès Catou. Les pages web sont sur franceculture.fr et le podcast sur l'appli Radio France.